entendu de la musique populaire en allumant votre radio. C'est quand Michael Jackson était encore noir. The Cure.
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour. Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir. Il est 19h, passé de 7 minutes, et c'est l'heure du Canu Info.
Alors ce soir, on commencera par quelques brèves avant de vous parler, de faire une petite interview des deux personnes qui sont là, Pierre et Lucas, bonsoir, pour nous parler de l'entrepôt Amazon qui se construira peut-être à Lyon-Saint-Exupéry.
Ensuite, on aura des nouvelles des tueurs de syndicalistes dans l'Ain.
Et quand on dit tueurs, si j'ai bien compris, c'est des vrais de vrais, quoi, des tueurs à gages.
Exactement.
Des histoires de films. Et puis tiens, tant qu'on y sera dans les guns, on ira faire un petit tour au Texas qui va autoriser encore un petit peu plus le port d'armes à feu.
Et on terminera ce Canu Info par l'agence Frontex qui se retrouve devant les tribunaux.
Radio Canu.
La plus rebelle des radios.
Mais d'abord, autant vous dire qu'aujourd'hui, c'était et c'est encore pour quelques heures, élection présidentielle en Syrie. Le suspense est insoutenable, puisqu'il y a même deux candidats qui ne sont pas Bachar el-Assad. Alors j'ai quand même pas noté leur nom, allez savoir pourquoi.
Canu Info du mercredi.
Elles n'auront rien lâché pendant 22 mois. Les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles ont tenu bon jusqu'à l'obtention mardi d'un accord avec le groupe Accor qui leur garantit entre autres l'abaissement de la charge de travail à une cadence plus humaine avec 2 à 3 chambres à nettoyer par heure. La fin des heures supplémentaires non payées, l'augmentation de leur tarification horaire et la garantie de travailler au moins 5 heures par jour contre 4 précédemment. Excepté l'intégration au sein du groupe Accor, toutes leurs revendications ont donc été entendues. C'est l'issue de 22 mois de lutte, dont 8 mois de grève intégrale. La semaine dernière encore, elles envahissaient le hall de l'hôtel Pullman Tour Eiffel avec des confettis plein les poches. Pour continuer à revendiquer ces demandes-là. Elles avaient saisi en décembre les prud'hommes pour réclamer leur embauche par le groupe Accor et dénoncer la sous-traitance de la discrimination. Les discussions sont longtemps restées au point mort et les grèves n'impactant certainement pas beaucoup un secteur hôtelier à l'arrêt, ils n'en ont eu cure, mais aujourd'hui, les femmes de chambre n'ont rien lâché et elles en sortent victorieuses.
Et on va finir ces petites brèves par une brève sur Nadine Morano.
Eh bien oui, écoutez, c'est un titre que j'ai trouvé dans 20 minutes. Présidentielle 2022, Nadine Morano ne veut pas être ministre de Marine Le Pen à l'heure actuelle parce que Nadine Morano, les Républicains, trouvent Marine Le Pen trop à gauche sur le plan économique. Ah. Alors, à la décharge de Nadine Morano, il faut dire que Marine Le Pen, elle, de son côté, Marine Le Pen à qui on avait demandé si elle pouvait envisager de prendre Nadine Morano ou encore Éric Ciotti comme ministre, avait répondu, pour montrer sa volonté d'ouverture, que pourquoi pas. Je me souviens d'une époque où le Front National expliquait que toute la politique institutionnelle, c'est-à-dire les partis sauf eux, c'était en somme un seul et même parti, un peu une fois à gauche, un peu une fois à droite, mais en tout cas finalement le même programme. Et Marine Le Pen, à la suite, je crois, de son père, parlait d'UMPS pour dire UMP, PS, UMP, c'est comme ça que s'appelaient les Républicains avant, je dis ça pour les plus jeunes, vous voyez un peu le topo. Aujourd'hui, on pourrait parler de quelque chose comme LRNEM ou quelque chose comme ça. Enfin bon, je vais pas redétailler. Puis tiens, on pourrait y ajouter le PS et le PC, les écolos, disons, LRNEM, PS, PCELV, ELV. C'est indigeste. Ça rassemblerait à peu près tous les partis qui étaient présents mercredi dernier au rassemblement des flics d'extrême droite.
Canu Info.
Alors actuellement à l'étude au tribunal administratif, un entrepôt Amazon Lyon-Saint-Exupéry devrait peut-être voir le jour. Si le tribunal administratif donne son accord, il se prononcera normalement d'ici l'été, courant juin. C'est un entrepôt de 160 000 mètres carrés. En comparaison à celui qui existe déjà à Saint-Priest, celui qui existe donc à Saint-Priest, il est de 6100 mètres carrés. Alors c'est beaucoup plus. Il y a un recours qui est déposé par plusieurs associations et partis politiques. Et on a aujourd'hui Pierre et Lucas, bonsoir, pour nous en parler.
Bonsoir.
Alors est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter un peu dans les grandes lignes ce projet, enfin ce nouveau projet d'entrepôt et ce qu'il implique?
Tout d'abord, l'Amazon, qui est un grand groupe capitaliste, s'inscrit dans une logique de maillage du territoire. Donc ils sont dans cette logique de créer du moins ou de s'implanter sur 12 zones avec des superstructures, des super entrepôts qui seraient reliés directement aux aéroports. Donc c'est le cas par exemple pour ce projet à Saint-Exupéry. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part c'est gigantissime, 160 000 mètres carrés comme tu l'as dit.
Ça fait une trentaine de terrains de
foot.
C'est ça. Hein.
Et au-delà de ça, donc il y a eu des recours qui ont été déposés effectivement par des collectifs et des associations, notamment l'association Plus Jamais Ça. Le tribunal administratif a rendu une première décision. Le rapporteur s'était prononcé contre, mais le tribunal administratif a quand même accordé le permis de construire. Donc là, il y a un appel qui a été formé et qui a été étudié par la cour administrative d'appel. On aura le résultat normalement mi-juin. Donc on attendra les conclusions aussi du rapporteur par rapport à ça. À prendre en considération une évolution quand même, le fait que le maire Grégory Doucet de Lyon se soit prononcé publiquement contre l'installation de cet entrepôt. Donc peut-être qu'effectivement, cela pourrait jouer dans la décision à venir de la cour administrative.
Parce que ça, le tribunal administratif est réceptif à ce genre de manœuvre politicienne ?
Il peut en tenir compte, ça peut jouer.
La pression de la rue, des élus, des associations, etc., c'est toujours positif. Hein. Ensuite, est-ce que c'est suffisant? Ça, c'est difficile de se prononcer immédiatement.
Alors, au-delà de cet entrepôt-là, est-ce que vous pouvez nous parler, nous dire un peu plus pourquoi on serait contre un entrepôt Amazon et qu'est-ce que ça implique, en fait, un entrepôt Amazon de plus?
Disons qu'il y a quatre grands types de raisons, hein. La première, c'est que Amazon prétend qu'ils vont créer des emplois. Ce qui est vrai localement, bien que ces emplois soient en général précaires, hein, et pénibles, mais ils en détruisent aussi. Et la plupart des études montrent qu'il y a entre 2 et 6 emplois détruits pour un emploi créé. C'est difficile de donner des chiffres plus précis parce que ça va dépendre de ce qui sera entreposé, hein, bien entendu. Ensuite, il y a les conditions de travail, hein, sur lesquelles on pourrait revenir, qui sont tout à fait déplorables, pression aussi bien physique que morale. Et puis, il y a la fraude fiscale. Et enfin, il y a toutes les questions écologiques, hein, la pollution à la fois par les marchandises qui arrivent par avion, multiplication des camions et des camionnettes, etc. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup d'aspects qui touchent pas les gens forcément de la même façon, hein, mais qui sont tous très importants.
Alors justement, tu parlais des conditions de travail, peut-être on peut revenir un petit peu là-dessus.
Sur les conditions de travail, de toute manière, le groupe Amazon se considère comme une multinationale capitaliste, ni plus ni moins. On a quand même un exemple clé en termes d'exploitation des travailleurs, de flicage des travailleurs. C'est une note de service qui émane de Jeff Bezos lui-même, hein, qui est depuis plus PDG d'Amazon, mais qui est toujours au conseil d'administration, à l'adresse des livreurs Amazon aux États-Unis, leur demandant d'uriner dans leur camion pour ne pas perdre de temps et d'honorer au plus vite les commandes. Voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et il y a tout un flicage des salariés d'Amazon qui est fait par des spécialistes de la sécurité informatique qui s'infiltrent même, hein. Il y a un très bon reportage d'ailleurs de complément d'enquête là-dessus, qui s'infiltrent sur les profils Facebook, sur les mails des camarades syndicalistes d'Amazon, pour justement leur exercer une pression physique et leur dissuader d'avoir des revendications, quoi. Enfin, Amazon, quand même, dans le monde, c'est 3 accidents du travail par jour. Et c'est les chiffres que nous font remonter la direction d'Amazon. Donc je veux dire, c'est l'exploitation la plus totale. Et ils ont bon goût actuellement quand même, à travers une campagne de pub, de se faire passer pour des gens qui emploient des personnes en situation de handicap, là, comme on peut voir, ou qui ont des considérations écologistes. Non, non, Amazon est bien, bel et bien champion du monde de l'exploitation des travailleurs. Et je ne parle même pas que lorsque vous osez mettre un grain de sable dans la machine Amazon, vous en payez des conséquences morales à la fois physiques. Hein. À l'exemple de ces camarades travailleurs qui voulaient monter un syndicat aux États-Unis, il y a une campagne de dénigration financée par la direction d'Amazon. Il y a même eu des menaces physiques, une pression morale. Donc, je veux dire, il ne reculera absolument devant rien pour faire le maximum de profit.
Alors, pour revenir à celui qui nous intéresse d'entrepôt, donc c'est à Lyon-Saint-Exupéry, en mai 2019, il y avait une association de riverains qui avait déjà demandé l'annulation du permis de construire, sans succès. Donc cette fois, c'est la décision d'appel qui doit être rendue. Est-ce que on pourrait avoir plus d'espoir? Comment on peut voir cette décision-là différemment? Pourquoi elle pourrait être différente? Alors, vous parliez un peu de la pression des élus, mais voilà.
Bah, c'est un ensemble, hein. C'est-à-dire que même du côté du gouvernement, quelquefois ils ont toussé par rapport à l'extension exagérée du e-commerce, etc. Même les ministres. Hein. Bon, en fait, les gens se rendent compte qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout. Hein. Bon, on a les marches pour le climat, par exemple. Hein. On a quantité de manifestations, de grèves à certains endroits, etc., hein, qui font que, bon, bah, y a visiblement une inquiétude et une volonté de lutte qui est partagée dans la population. Hein. Et puis, je dirais même que ça va plus loin, parce que tout ce qu'on a vu dans la crise sanitaire, etc., montre que, sur le fond, il y a quand même des choix de société qu'il faut remettre en cause. Hein. Et que cette espèce d'hyper-consumérisme immédiat, compulsif, etc., ça a des conséquences désastreuses. Hein, que les gens sont poussés à faire des achats et des dépenses tout à fait inutiles, qu'on leur fait croire qu'ils sont libres, alors qu'en fait, ceux qui sont libres, bah, c'est ceux qui sont en possession du pouvoir économique et financier. Hein. Donc les gens sont manipulés. Ça, c'est quand même des idées qui cheminent petit à petit dans la tête des gens. Alors est-ce que ce sera suffisant pour que le tribunal se prononce, hein, d'autant que, bon, dans les tribunaux, il y a des juges qui ou une certaine ouverture d'esprit, il y en a d'autres moins, hein, donc c'est assez difficile de pouvoir répondre immédiatement. Hein.
C'est sûr. Et sur, du coup, l'une de vos stratégies qui est de par exemple, à travers plusieurs lettres, etc., d'interpeller les élus de la métropole et de la commune de Colombier-Saunieu, on a parlé du maire tout à l'heure, quels sont les autres résultats que vous avez eus? Est-ce que vous avez eu des retours sur ces courriers? Est-ce que...
Oui, alors... En fait, ce sont les associations qui ont demandé. Hein, c'est pas le Parti communiste ni les autres partis politiques qui sont vraiment à l'initiative dans ce cas-là. Hein. Mais on est dans une situation un petit peu délicate parce que concrètement sur place, hein, quand je disais tout à l'heure que environ pour un emploi créé, il y en a 4 qui sont détruits. Mais ils ne vont pas être détruits sur place, hein, puisque les commerces de proximité, par exemple, à Colombier-Saunieu, il n'y en a pas. Donc, on ne risque pas de les détruire. Il va y avoir des conséquences à 100 km à la ronde. Hein, ce sera à Bourgoin, ce sera à Lyon, ce sera à Villars-les-Dombes, etc. Hein. Voilà. Donc, il est important que les élus, dans leur diversité, s'expriment. Hein. Par exemple, c'est le maire de la commune qui accorde le permis de construire. Mais il y a des conséquences sur la voirie, sur l'environnement, etc. Et là, c'est plus du domaine du maire, c'est du domaine de la métropole, par exemple. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut que ça vienne un petit peu de tous les côtés pour arriver à faire qu'on ne soit pas dans cette situation d'un entrepôt hyper géant, etc., qui bouffe tout le reste, quoi.
Et alors, au-delà de ça, sur la partie plus des gens qui ne sont pas élus, qu'est-ce que vous attendez exactement de cette campagne de mobilisation? Enfin, quelle sorte de mobilisation vous attendez?
On part surtout sur une mobilisation populaire, hein, c'est-à-dire qu'il faut faire avec les habitants qui habitent à proximité de cet entrepôt et toutes les personnes qui refusent cette société de consommation et ce e-commerce qui détruit les emplois aux alentours. Donc on a déjà fait plusieurs distributions massives, hein, au niveau du tram, à mes yeux. On a discuté avec les habitants Magelon qui, pour la plupart, n'étaient pas spécialement au courant de l'installation de cet entrepôt et surtout de la taille gigantesque de celui-ci. Et on va continuer, notamment à travers des actions coup de poing, comme déployer des banderoles. On l'a fait à Vaux-la-Soie, tram. On compte le faire aussi devant le centre commercial de Pardieu. Voilà, par rapport à la société de consommation, c'est aussi une dénonciation, pour faire un lien. Et on va multiplier ce genre d'action, évidemment, et on invite toutes les personnes qui veulent lutter contre la création de cet entrepôt à venir nous rejoindre lors de ces actions. Parce que, comme l'a dit Pierre, en fait, il y a deux pieds. On ne peut pas non plus que se baser sur les prises de position des élus. Il faut qu'il y ait une mobilisation populaire pour faire échouer ce projet. Et peut-être que ça, effectivement, le tribunal est susceptible de le prendre en compte aussi.
Voilà. Il faut que ça vienne de différents milieux. Par exemple, là, on a rédigé un tract en direction des commerçants. Hein? On fait des petits marque-pages en direction pour donner aux libraires. Hein? De façon que il y ait beaucoup plus de gens qui soient au courant de ce qui se passe. Et aussi des conséquences. Hein? Parce que la propagande d'Amazon, etc., comme celle de Total, du Crédit Agricole, de la Société Générale, il n'y a pas plus vert qu'eux, hein, et pas plus philanthrope, pas plus économie sociale et solidaire. Bon, donc, évidemment, les gens qui ne disposent que de ces informations-là, ils sont
il n'y a aucun problème. Hein. Et oui, justement, ce regain d'intérêt pour cette mobilisation, on le voit un petit peu en 2019, du coup, il y avait seulement une petite association de riverains qui voulait pas de ça chez eux, quoi. Et là, ça fait un peu plus... vous voyez un peu la mobilisation grossir et d'autres associations qui ont rejoint...
la chose. La mobilisation, elle est internationale aussi. Hein. En France, par exemple... Donc pour le Parti communiste, il a été à l'initiative dans le Gard et en Moselle contre des entrepôts du même genre. Hein. D'autres associations de divers types, alors dans certains endroits, c'est des associations qui font un travail remarquable, comme Alternativa, Oxfam, Attac, etc. D'autres, c'est les syndicats, hein, du moins la plupart. Hein, d'autres, c'est des partis politiques. C'est très divers. Hein, ou ça peut être des milieux culturels, par exemple. Hein. Voilà. Donc, il faut que ça parte de partout. Et il faudrait aussi qu'on ait des coordinations plus fermes, plus claires, nationales et internationales. Hein, parce que eux, Amazon, les GAFAM, etc., eux, ils ont les coordinations. Ils sont pas dispersés. Ils savent ce qu'ils font.
Quand tu dis il faut qu'on ait des coordinations, c'est quelque chose qui est en train de se construire un petit peu, ou c'est juste un souhait, ça serait bien, mais pour l'instant, il n'y a pas trop de...
Disons que nous, au niveau du Parti communiste, on a suggéré ça au moins à l'intérieur de notre organisation, quoi. Hein. Il y a le collectif Plus Jamais Ça à Rhône, c'est une émanation du collectif Plus Jamais Ça National. Hein? Donc ça existe en partie. Mais entre nous, on voit bien quand même que l'OMC, le FMI, l'OTAN, l'UE, le G20, eux, ils se coordonnent, quoi. Et nous, bon, on fait ce qu'on peut, et quelquefois, c'est c'est un peu faible, quoi.
C'est sûr, c'est pas les mêmes moyens non plus.
C'est pas les mêmes moyens, ouais.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, sur quoi vous voudriez conclure ? Ah, pardon.
Et par exemple, où on peut vous trouver ? Comment des gens qui nous écouteraient, qui seraient intéressés, pourraient vous rejoindre ? Est-ce qu'il y a des rendez-vous ? Est-ce qu'il y a des coordonnées ?
Alors déjà, via notre Facebook, de la section du Parti communiste de Vauvelin, on relaye toutes les actions en lien justement avec Amazon, et les actions également du collectif Plus Jamais Ça. Donc voilà, l'idée c'est effectivement de rester en veille là-dessus et de relancer la machine, parce que ça a été un peu compliqué, comme le disait Pierre, après l'année de pandémie, effectivement, de relancer la machine là-dessus. Et Amazon en a profité, voilà. Juste pour terminer par rapport à ce que tu disais, je pense que ça nous amène aussi à réfléchir à, au-delà de ça, au-delà de la campagne à l'instant T contre l'installation de ce super entrepôt, de quelle société on veut. De voir les ravages de la surproduction qui entraîne de la surconsommation. Cette crise aura peut-être ouvert des œillères à certains sur la nécessité justement de faciliter les circuits courts, de produire local, de consommer local. Et j'espère que ça amènera à une conscientisation justement sur tous les ravages de ce capitalisme internationalisé. Parce que là, c'est réellement le cas. Comme disait Pierre, la lutte se mène au niveau local, national, mais aussi international contre ce genre de firme capitaliste.
Parce que effectivement, moi, je trouve que Amazon, c'est un peu le symbole de ce truc-là. Mais tous les sites du genre Price Minister, tout cet ensemble de sites participent de la même façon à cette destruction du monde ou tout ça, quoi. Donc c'est sûr qu'il y a ce symbole Amazon où faut clairement se battre contre eux, mais sans oublier les autres qui sont tout aussi responsables du désastre actuel, quoi.
Oui, qui sont sur le banc de touche pour récupérer les parts de marché qu'Amazon n'aura pas.
Exactement.
Oui, parce que, un exemple, Amazon est en relation avec Monoprix et avec Naturalia. Donc, ils ont l'objectif de se lancer dans l'alimentaire, et y compris le bio. Parce que rien ne les empêche de se montrer le plus vert possible, le plus philanthrope possible, le plus extraordinaire. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on passe à une vitesse supérieure si on n'a pas envie de se faire manipuler et surexploiter de façon permanente et encore plus grave que ce qu'on a maintenant, parce que regardez Trump, Bolsonaro, etc. et tout ça, on peut toujours trouver pire.
Merci à vous de nous avoir présenté ça. Donc on rappelle que ce sera fin juin qu'il y aura cette décision, normalement qui est la dernière, après il n'y a pas d'autres appels possibles.
Conseil d'État. Aller devant le Conseil d'État, mais ce serait une procédure longue.
D'accord. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que si l'appel est rejeté, enfin en tout cas s'il va dans le sens des associations, là il y a une porte ouverte. S'il est rejeté, c'est le Conseil d'État et voilà.
Tout à fait.
En attendant, donc on peut vous rejoindre sur vos pages internet et suivre un peu les actions qui se préparent.
Merci beaucoup. On va s'écouter une petite musique de Little Boy et c'est le titre Riot in Toulouse et on se retrouve pour la suite des infos. Ah, si mon morceau marche pas, ça marche pas pour moi. Ah, et bon, on va se mettre un petit générique et puis on écoutera la même chanson après.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Eh ben non, on va passer à la suite alors. Parce que décidément, mon ordinateur ne veut pas marcher.
Alors, la suite.
Elle est prête.
On voulait vous donner des nouvelles des tueurs de syndicalistes dans l'Ain, puisqu'il y a ça parle de tueurs à gages, d'agents de services secrets, de francs-maçons, de chefs d'entreprise. Un polar, mais qui a failli coûter la vie à un délégué syndical d'une entreprise de plastique près d'Oyonnax. puisque la directrice générale de la société dans laquelle travaillait cet homme aurait commandité son assassinat. Et alors la nouvelle, c'est qu'elle vient d'être écrouée après enquête. Alors, le procès aura lieu ultérieurement, mais voilà. En tout cas, elle a été arrêtée. La directrice générale de cette entreprise spécialisée dans les pièces techniques en plastique a donc été mise en examen, ainsi que son mari, pour association de malfaiteurs dans le but de commettre un meurtre, alors qu'ils nient tous les deux. Alors, tout ça, ça remonte un petit peu à l'année dernière, puisque en janvier 2020, Frédéric Vaglio, qui est franc-maçon de la loge Atanor, se serait rendu dans l'Ain pour visiter l'usine Apnil, donc cette usine dont on parle, de Muriel Millet et de son mari. Lors de la visite, Muriel Millet aurait dit à Frédéric Vaglio, en parlant d'un délégué syndical, je cite, « On a un mec qui n'arrête pas de nous emmerder, en qu'on ne peut pas virer. Parfois, j'aimerais bien lui casser la gueule. Qu'est-ce qu'il peut nous embêter ?» C'est ce que Frédéric Vaglio déclare aux enquêteurs dans le procès-verbal. Il leur affirme en avoir informé Daniel Beaulieu. Daniel Beaulieu, on en parlera ultérieurement, qui est quelqu'un d'autre de cette loge maçonnique. Il faut suivre parce qu'il y a beaucoup de personnages. Alors après 15 jours de réflexion, poursuit-il, le couple était OK pour faire quelque chose. Le montant du contrat est fixé à 75 000 euros. Entendre par quelque chose, en fait, neutraliser ce syndicaliste malveillant. Mais en juillet 2020, le contrat est arrêté. L'un des tueurs à gages contracte le Covid et à des centaines de kilomètres de là, un autre contrat échoue in extremis, celui de Marie-Hélène Dini, coach en entreprise. En juillet, oui.
Attends, qu'est-ce qu'elle vient faire là, elle ?
Ah bah justement. C'est un autre contrat, en fait, de tueur à gages. Enfin, puisque à gages, ça veut dire avec plein de gens à tuer, quoi. Donc, et ça a permis de mettre en relation les deux affaires. Alors, donc Marie-Hélène Dini, en juillet 2020, deux agents de la DGSE étaient en planque devant le domicile d'une coach en entreprise, donc Marie-Hélène Dini, avec pour mission de la tuer. La tentative d'assassinat a échoué in extremis grâce au signalement d'un riverain intrigué par le comportement étrange des deux hommes. Les deux militaires âgés de 28 et 25 ans qui étaient affectés au centre parachutiste d'entraînement de Saran dans le Loiret, donc aucun doute, le centre dépend de la DGSE. Ce sont eux qui donc étaient en poste devant sa maison. Le commanditaire présumé de l'assassinat de Marie-Hélène Dini, c'est un coach lui aussi, concurrent, enfin qui est son concurrent. Selon l'enquête, il craignait de ne pas être labellisé si le projet de Marie-Hélène Dini de créer un syndicat pour encadrer les pratiques de la profession voyait le jour. Donc,
C'est-à-dire que le mec avait déjà des méthodes crapuleuses et il s'est dit, pour éviter que mes méthodes crapuleuses au sein de mon métier soient révélées, autant que je bute les gens qui veulent réguler mon métier.
Voilà, ouais. Par d'autres méthodes un peu crapuleuses aussi. Alors maintenant, si vous suivez toujours, le lien avec les francs-maçons. À sa retraite, Daniel Beaulieu, dont on a déjà parlé au début de l'histoire, qui est un ancien commandant de la direction du renseignement intérieur, crée en 2009 une petite société d'intelligence économique. Par ailleurs, il est membre de la loge maçonnique Atanor depuis une vingtaine d'années, une section dont la philosophie serait plus ou moins d'éliminer les personnes jugées gênantes au profit des intérêts des frères maçonniques. Voilà. En son sein, selon plusieurs sources concordantes, d'anciens fonctionnaires de la DGSE, d'anciens policiers ou d'anciens journalistes se côtoient. Bon, ça, jusque-là, ça reste juste la franc-maçonnerie banale. En 2019, Daniel Beaulieu et le responsable de la loge s'organisent pour recruter des hommes de main et pour mettre en œuvre des contrats de tueurs. Une dizaine de contrats de tueurs, donc voilà où est le lien. C'est tous des contrats passés auprès de ces personnes-là. Auraient été envisagés et dont certains ont été honorés par contre, comme celui en 2018 d'un pilote de rallye, donc lui qui est mort, qui n'avait pas remboursé ses sponsors, donc meurtre commandité par les sponsors en question. Les autres loges franc-maçonnes nient avoir hébergé Atanor qui s'est fait dissoudre en février dernier. Alors là où le doute est permis, c'est fait dissoudre par qui, puisque la loge les autres francs-maçons nient le lien. Bon, jusque là il y a un petit lièvre à lever. Alors pour conclure, au-delà du détricotage de cette histoire rocambolesque, qui nous emmène dans un tas de directions différentes, des exécutants du haut du panier, qui nous changent un petit peu des meurtriers dont on entend parler à longueur de journée quand on parle de faits divers, cette histoire en fait, nous donne surtout à méditer sur la volonté calculatrice du personnage dont on parlait au tout début et qui s'est fait enfermer il n'y a pas longtemps, qui est la chef d'entreprise, donc sur sa volonté à elle, de en fait juste mettre au pas sa force de travail.
Et ça y est, on a retrouvé la chanson. Donc on va s'écouter alors une musique de Little Bob, du groupe Little Bob, et c'est le titre Riot in Toulouse. Mmh. Et alors, je fais suivre l'info qu'un auditeur nous a passée pendant le temps de la musique. Mais si vous voulez plus d'informations sur cette histoire de syndicalisme et d'Amazon aux États-Unis, il y a l'émission Secret d'Info sur France Inter qui a fait une émission là-dessus. Alors, j'ai pas retrouvé de quand elle date le temps de la musique, mais voilà, je pense que vous allez trouver sur le site de France Inter. Et il y a également un article du Monde Diplomatique qui est malheureusement payant, qui se nomme « Pourquoi les syndicats américains ont perdu face à Amazon ». Voilà, donc si vous voulez compléter vos recherches là-dessus, allez-y. Et on va aller du côté du Texas.
Eh bien oui, puisque les législateurs du Texas ont autorisé avant-hier le port d'armes de poing sans aucune contrainte. Aucun permis, aucune licence, aucune vérification, aucune formation. Tout le monde avec son flingue dans son sac ou à la ceinture.
Ah, ça c'est bon ça.
L'idée c'est que cette autorisation permettra à tout le monde de mieux se défendre, bien sûr. Ça mettra un terme à l'obstacle constitutionnel qui défend pour l'instant de s'équiper en armes de poing n'importe comment. Et pour la NRA, la National Rifle Association, c'est-à-dire le lobby des flingueurs aux États-Unis, cette mesure sur le droit au port d'armes est la plus importante dans l'histoire de l'État. Alors jusque-là, au Texas, on a déjà le droit, comme globalement aux États-Unis, de porter en public une carabine sans licence. Pour les autres armes, c'est assez facile de les obtenir et d'avoir le droit de les porter sur soi, mais il faut quand même 2 ou 3 démarches et vérifications. En gros, il faut avoir une licence qu'on peut obtenir à condition de ne pas être un dealer de drogue. Ça, les dealers de drogue, on leur dit non. Un fugitif ou un immigré illégal. Ces gens-là n'ont pas le droit d'avoir n'importe quelles armes, à part des carabines. Mais les autres peuvent avoir ces licences. Pour les mineurs, on ne peut pas acheter n'importe quelle arme à n'importe quel âge. Et quand même, pour obtenir cette licence, il faut un contrôle des antécédents, un relevé des empreintes digitales, une formation, un examen écrit et un test de tir. Une fois que la loi sera votée, le seul obstacle sera théoriquement une condamnation pénale pour crime ou une autre interdiction légale. Mais comme la loi ne prévoit absolument aucune vérification, on imagine en gros que tout le monde pourra avoir son revolver à la ceinture. En fait, le Texas n'est pas tout seul à voter ce genre de loi, puisque d'ici la fin de l'année 2021, c'est prévu que 22 États permettraient de circuler avec une arme sans contrainte, une arme, pour le coup, une arme de poing. Alors que près de la moitié des États américains libéralisent le port d'armes, le pays connaît, ma foi, une flambée des homicides. Tiens, est-ce que ça pourrait être corrélé ? En 2020, la hausse des homicides a atteint 30%. Alors, l'idée derrière ce truc de légaliser les armes, comme l'argumente la NRA, c'est que pour arrêter un méchant type armé, le mieux c'est encore d'avoir un gentil type armé.
Et qu'on peut tuer quelqu'un avec un couteau de cuisine, hein. Il n'y a pas besoin d'une arme pour tuer quelqu'un.
C'est ça.
C'est un des arguments qui ressortent.
C'est ça, c'est aussi un des arguments qui ressortent. Non mais c'est la NRA a toute une série d'arguments théoriques. Mais alors le résultat pratique c'est quand même que plus de 100 personnes meurent par arme à feu chaque jour aux États-Unis. J'ai bien dit 100 personnes par jour. Plus de 100 personnes par jour. L'autre résultat pratique, c'est que, enfin, pour compter les choses autrement, c'est qu'à un moment, il y a eu un article dans le Washington Post au début de l'année 2019, et ils avaient calculé qu'entre le 1er janvier et le 6 mars, c'est-à-dire en à peine plus de 2 mois, le nombre d'Américains morts par arme à feu en temps de paix avait dépassé les pertes subies le 6 juin 1944, le jour du fameux débarquement en Normandie. Voilà, et ben écoute, l'idée, c'est que la guerre de tous contre tous comme modèle de société, c'est cool, mais seulement si vraiment on aime la guerre.
Radio Canu.
Canu Info. Du mercredi.
Alors, il aura fallu 17 ans pour que, après la création de l'agence européenne Frontex, pour qu'elle se retrouve enfin devant les tribunaux. Alors, s'il a fallu attendre 17 ans, c'est pas parce que jusqu'ici, elle était, sans reproche, sans méthode dégueulasse ou quoi. Non, cela se montre simplement comment il est difficile de s'en prendre à une énorme institution, quand bien même des preuves documentées existent sur des pratiques illégales. Si le recours est déposé au nom de 2 demandeurs d'asile, il est appuyé par 3 organisations, Front-Lex, Progress Lawyers Network et Greek Helsinki Monitor. Sympa pour mon accent anglais, hein. Merci. Alors, ces trois organisations s'appuient, appui nécessaire contre, quand on veut s'en prendre à un tel mastodonte. Alors, la plainte a été déposée le 21 mai à la Cour de justice européenne, donc au nom de ces deux personnes, un mineur congolais et une femme burundaise. Alors, quand je dis au nom, c'est pas les organisations qui ont trouvé leur nom sur une liste et qui, c'est-à-dire les deux personnes sont parties prenantes dans ce dépôt de plainte, quoi. Tous deux avaient atteint l'île de Lesbos en Grèce et déclarent avoir été victimes de violences et de refoulements. Leur témoignage colle avec de nombreux autres témoignages récoltés dans différents médias auprès d'ONG, de médias spécialisés comme Infomigrants et même de soldats allemands qui ont témoigné d'avoir vu des pratiques de la part de Frontex un peu dégueulasses. Ils affirment avoir été expulsés, je les cite, collectivement et finalement abandonnés sur des radeaux sans moteur, ni eau, ni nourriture. En octobre 2020, on en avait parlé sur cette antenne, l'hebdomadaire allemand Der Spiegel avait sorti une enquête documentée des agissements des gardes-côtes grecs, cela à l'aide du refoulement illégal à l'entrave de canaux bondés en pleine mer Égée par des gros navires de garde-côtes. En gros, ce qu'ils faisaient, c'était... Bon, alors, une fois qu'il y avait le coup classique, enfin, tragiquement classique, de les gens arrivent à peine à déposer le pied et sont expulsés, pour le coup, sur les côtes turques. Et sinon, ils avaient d'autres méthodes qui étaient, avec leurs gros bateaux, de tourner très vite autour des petits canaux bondés pour faire des énormes vagues, pour forcer les gens à faire demi-tour, ou alors même complètement leur... piquer leur essence à bord pour qu'ils ne puissent pas rejoindre les côtes grecques. Agissement dont Frontex aurait au grand minimum, alors ça c'est vraiment si on est vraiment mais de la plus grande extrême prudence, été un observateur passif. Bon, déjà, être un observateur passif de ce genre de truc, c'est déjà sacrément dégueulasse. Quand on représente une agence européenne de garde des frontières, ça l'est encore plus.
Sacrément dégueulasse et sacrément illégal.
Et sacrément illégal, tout à fait. Mais ils ont été très vraisemblablement actifs avec la présence d'agents dans les refoulements illégaux, de personnes en détresse ou même de prêts de bateaux pour ces mêmes agissements. Dans tous les cas, au vu de la présence, du coup, sur la zone de l'agence, il est impossible ça lui est impossible de nier, de dire ah non, alors ça vraiment nous on en a pas vu du tout, on sait pas du tout ce qui s'est passé. Pour l'avocat Omer Shadz, cofondateur de l'ONG Frontex, dans des propos recueillis par le site Infomigrant, je cite, Frontex est complice de crimes contre l'humanité en ce qui concerne l'expulsion de plus de 10 000 êtres humains en 2020 seulement, sans que cela n'entraîne d'enquête de cour de la Cour européenne de justice sur ces pratiques pourtant décriées. Alors, malgré les soupçons et les pratiques délictueuses qui pèsent sur l'agence, dont les autorités européennes ne sont pas sont au courant, cela n'a pas empêché l'UE de prévoir un renforcement des effectifs de 10 000 agents d'ici 2027. Et il est 19h48 et ce Canu Info touche à sa fin.
Et on peut juste terminer avec un petit agenda du week-end sur les manifs qui sont prévus. Il y en a deux, une samedi à 15h. Alors le rendez-vous est à la place de la Croix-Rousse. Et c'est en fait pour manifester contre les violences d'extrême droite et voilà, pour aussi fermer les locaux fascistes. Donc c'est organisé par plusieurs collectifs. Dont l'UCL, parce que la Plume Noire s'est fait plusieurs fois attaquer par les fascistes.
Samedi, la Plume Noire qui est la librairie
qui est la librairie de l'UCL. Voilà. Et donc ce sera samedi 29 mai à 15h. Et sinon, dimanche, la journée de lutte pour porter les voix des prisonniers et des prisonnières. Ce sera à 14h, place Bellecour, et c'est aussi plus particulièrement sur les violences pénitentiaires, les violences carcérales, et porté par le collectif IDIR et Espoir et Solidarité, donc pour la fermeture des mitards, puisque IDIR est mort dans un mitard. Voilà, ça c'est dimanche, à 14h, place Bellecour.
Et c'est grosse journée là-dessus, et il y a aussi une discussion repas avec L'Envolée, qui est le collectif anticarcéral en France, assez actif, qui sort des brochures hyper bien, tout ça. Repas qui a lieu du coup dimanche 30 mai à 19h, et ça c'est, je crois, à... C'est où ? Ah voilà, à l'Illégalité. Donc vous retrouvez là. Ah voilà, au 6 rue de l'Égalité à Cusset, à Villeurbanne. Et il y a également une manifestation samedi, juste avant, avant la manifestation antifasciste à 10h. Manifestation pour un logement digne pour tous et toutes et contre la fin de la trêve hivernale. Voilà, samedi 29, place de Francfort à 10h. Voilà, en gros. Bah, je crois que vous avez fait un petit agenda. Hein. Si vous n'avez pas tout mémorisé, vous allez sur Rebellion puis vous retrouvez tout. Eh bien, merci de nous avoir écoutés.
Et à la semaine prochaine.
Et on se quitte avec le petit générique de fin.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.